Radio Okapi. Oh, Okapi. Place au journal, présenté par Jocelyne Moussaou-Pondé.
Suspension de la grève dans les établissements universitaires. Le gouvernement et l'intersyndicale des enseignants ont signé des accords pour la mécanisation des non-payés et l'alignement du personnel de l'ESU à l'ajustement du salaire de base. La situation sécuritaire en Ituri au centre du débat entre les structures citoyennes et les autorités militaires dans cette province, alors que les organisations non gouvernementales jugent cette situation préoccupante, les autorités rappellent que les efforts déjà consentis pour pacifier des entités jadis occupées par les assaillants ont favorisé le retour de populations dans leur milieu. Notre invitée est Yvette Mwanza, experte dans les questions minières. Elle donnera son point de vue sur la manière dont l'argent versé dans le fonds minier congolais devrait être investi afin d'être rentable pour les générations futures et actuelles. Bonjour à tous. Avant d'aller plus loin, parlons d'abord de cet éboulement qui a coûté la vie à 3 enfants en âge scolaire et 2 personnes grièvement blessées. Il est survenu dans la nuit de dimanche à hier lundi dans le groupement de Bouabo, territoire de Massissi au Nord Kivu. Depuis Goma, Bernardine Diambou nous en dit plus.
Selon la société civile locale, ce drame est la conséquence d'une pluie diluvienne qui s'est abattue vers 2h du matin la nuit dernière dans la zone. Le village Bouloa n'a pas été épargné. Toujours selon notre source, cette forte pluie a fait plusieurs dégâts. C'est entre autres la perte en vie humaine de ces 3 enfants dont l'âge varie entre 7 et 12 ans. Tous 3 ont été engloutis dans la maison de leur grand-mère. Toujours d'après notre source, leur grand-mère a été grièvement blessée et a été acheminée à l'hôpital de Massissi Centre pour des soins appropriés. Une autre personne, dit notre famille, a été également blessée et conduite au centre de santé de Kishonja, situé à environ 4 km du lieu du drame, a indiqué le président de cette structure citoyenne qui dit être ému par cette catastrophe naturelle. Goma, Bernardine Diambou, Radio Okapi.
L'intersyndicale nationale de l'enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique de la RDC suspend la grève dans tous les établissements universitaires sur toute l'étendue du pays. Cette décision intervient après quelques jours des discussions qui ont abouti à la signature des accords entre le gouvernement et l'intersyndicale des enseignants. Il s'agit entre autres de la tenue imminente de la commission paritaire, la mécanisation des non-payés et l'alignement du personnel des l'ESU à l'ajustement du salaire des bases. Omba Pene Ebondo, rapporteur adjoint de l'intersyndicale nationale des ressources, est au micro de Fulbert Balolagué.
Nous étions en négociation avec le gouvernement et les bases syndicales, d'un côté le gouvernement de l'autre. Et après 4-5 jours de négociation, on a signé un accord avec le gouvernement qui a fait une petite avancée en acceptant l'une des premières conditions que nous avions posées, la tenue de la commission paritaire, parce que c'est là où on pouvait élargir toutes les questions liées au problème de l'ESU. Et la deuxième aussi, le côté gouvernemental a dit qu'ils étaient de bonne foi, ils ont mécanisé les nouvelles unités. Ils vont continuer cette mécanisation au mois d'avril, des nouvelles unités, des sous-payés, des non-payés au mois d'avril. Et à la fin des comptes, ils ont dit qu'ils ont aussi diminué l'hyper de 15 à 3%. Et c'est ce qui nous a permis surtout la condition primordiale qui était la tenue de la commission paritaire. Comme le gouvernement était d'accord de tenir cette commission, nous avons vu qu'il faut suspendre momentanément la grève pour permettre ces pourparlers.
En cas de non-tenue des promesses des accords qui seront signés entre les parties prenantes, les membres du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire et recherche scientifique se réservent le droit de revenir en grève. Pour rappel, cette grève a été décrétée depuis le 5 janvier dernier. Et en réaction à la décision de l'intersyndicale nationale de l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique de la RDC suspendant la grève, le syndicat de chefs de travaux et assistants de la RDC, SINACAS, coordination l'organisation locale de l'ISP Mbanzangungu qualifie ces protocoles de fantaisistes et réalistes, car, dit-il, les négociations avec la partie gouvernementale n'ont pas été menées dans la transparence et la décision suspendant la grève a été prise sans que la base ne soit consultée. Par conséquent, il décide de durcir le mouvement de grève. Suivez un extrait de la déclaration du SINACAS ISP Mbanzangungu, lu par le chef des travaux Prudence Samba, son président local. Propos recueillis par Nana Purich Mambou.
Nous, membres du syndicat national des chefs de travaux et assistants de l'ISP de Mbanzangungu, soucieux de la situation salariale des chefs de travaux et des assistants dans un pays si riche, après avoir constaté avec amertume et regret les résultats du protocole d'accord signé en date du 4 février 2022 à Kinshasa entre le banc syndical du SINACAS et le gouvernement, vu le caractère irréaliste que revêt le dit compromis qui a été signé sans la consultation de la base, exprimons à l'unanimité notre désaccord complet quant à la suspension de la grève et écartons toute option tendant à reprendre les activités académiques sous toutes leurs formes. Demandons dans l'immédiat la convocation par le ministre des tutelles de la commission paritaire qui se chargera de l'élaboration d'un barème salarial pour les sous-secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire.
Restons dans le Congo central où on apprend que les sous-traitants de la société pétrolière Perenco ont repris le travail depuis le dimanche matin. Pendant 4 jours, en effet, ces agents avaient observé un arrêt d'activité pour exiger la suppression des écarts sur l'indemnité de vie chère, tout en réclamant l'augmentation des frais de logement. Le gouverneur intérimaire Justin Louimba, qui s'est rendu à Mwanda pour apaiser la tension entre employeurs et grévistes, condamne les actes de vandalisme perpétrés par ces derniers. D'après lui, le travail a repris, mais les revendications des sous-traitants n'ont pas abouti jusqu'à présent. Néanmoins, ajoute-t-il, toutes les parties se sont mises d'accord pour que la paix sociale revienne. Dans un autre chapitre, les organisations de la société civile, les plateformes, les réseaux et mouvements citoyens s'engagent à mettre en place une campagne de surveillance et de vigilance des élections de 2023 en RDC. C'est la principale recommandation de la matinée de réflexion et d'analyse de la feuille de route de la CENI, organisée hier lundi à Kinshasa par le cadre de concertation nationale de la société civile. Pour son coordonnateur Danny Singoma, il faut absolument des réponses aux inquiétudes relatives aux contraintes financières, techniques, organisationnelles et autres liées au temps. Danny Singoma a été joint par Jean-Désiré Kanyama.
Nous avons analysé la feuille de route de la CENI. Nous estimons qu'une feuille de route est comme une boussole qui nous montre où nous allons et qui montre où vont les élections. Et nous pensons qu'il y a des inquiétudes à se faire parce que les contraintes ne sont pas du ressort de la CENI. Et si les responsables de ces contraintes n'ont pas beaucoup de volonté ou bien ne mettent pas des paquets, la CENI sera contrainte de subir. Il y a par exemple les contraintes financières. Le gouvernement doit s'activer pour donner les moyens conséquents à la CENI afin qu'elle puisse commencer parce qu'elle est en retard. Aujourd'hui, nous voyons que nous sommes à moins de 800 jours de l'échéance électorale. La société civile s'est dit qu'elle va travailler en profondeur pour encourager la CENI à organiser les élections dans les temps et pour aussi encourager le gouvernement afin que le gouvernement puisse mettre les moyens. Et nous espérons que les autres organisations de la société civile qui n'étaient pas présentes aujourd'hui à travers tout le pays vont se joindre à cette campagne pour qu'ensemble nous démontrions que la société civile peut aider à ce que les élections se tiennent dans les temps, dans les délais. Maintenant, il y a encore, par exemple, la loi sur l'organisation des élections, la loi sur la répartition des sièges qui ne sont pas encore là. Ça nous inquiète, donc il faudra un sursaut d'orgueil du Parlement pour nous doter de ces instruments qui vont permettre d'aller vers de bonnes élections.
Ces organisations de la société civile demandent aussi au gouvernement d'assurer la sécurité des biens et des personnes pour que les élections de 2023 soient également organisées dans les zones sous état de siège. Je l'ai dit dans les titres, en Ituri, les organisations non gouvernementales jugent la situation sécuritaire préoccupante. Selon elles, les dernières semaines ont été marquées par la multiplicité des attaques dont la plupart ont visé des sites déplacés. La société civile et l'Union des associations culturelles de l'Ituri, UNADI, pensent que l'État a failli dans sa mission de protéger la population et ses biens. En réaction, les autorités rappellent que beaucoup d'efforts sont déjà faits sur le terrain pour pacifier des entités jadis occupées par les les assaillants, ce qui a permis, selon elle, le retour des populations dans leur milieu. Marcel Kiza signe ce reportage.
La coordination de la société civile de l'Ituri fait une lecture sombre de la situation sécuritaire dans la province. Pour ces forces vives de l'Ituri qui citent le dernier massacre de 63 personnes avec plusieurs blessés, c'est inacceptable ces genres de meurtres qui violent les droits internationaux humanitaires, déclare Dieudonné Lossa, coordonnateur de cette structure citoyenne. Avec une ADI, ces deux structures demandent au chef de l'État de venir se rendre compte personnellement de la situation sécuritaire à Ituri, Dieudonné Lossa.
Face à cette destruction de toute vie et de tout bien animal, végétal comme matériel, demande à son Excellence Monsieur le Président de la République de descendre personnellement à Ituri pour apprécier la situation sécuritaire.
Pour les autorités militaires, beaucoup d'efforts sont déjà faits sur les terrains et d'autres sont en cours pour restaurer l'autorité de l'État dans plusieurs entités. Les porte-parole de l'armée à Ituri, le lieutenant Gilles Ngongo.
Le retour de la population dans leur milieu d'origine, reprise des activités socio-économiques et les écoles, aussi les hôpitaux jadis, personne ne pouvait fréquenter.
Reste que pour certains observateurs, les pardons et l'amour habituel entre les communautés restent l'une des voies pour une paix durable à l'Ituri. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
À Beni, un engin explosif improvisé a explosé le week-end non loin du marché Mayangosé en face de l'état-major de la police, faisant 6 blessés, dont un grièvement. Face à cette situation, le maire dit avoir pris des mesures sécuritaires pour protéger la population. L'autorité urbaine appelle donc celle-ci à la vigilance et à poursuivre l'opération. Chunguza Djirani entendait surveiller son voisin institué depuis l'explosion du 25 décembre 2021 en plein centre-ville. Le commissaire supérieur principal, Narcisse Moutebakachalé, explique au micro d'André Kitenge.
Il y a des opérations qui se déroulent en profondeur, c'est-à-dire en brousse là-bas. L'ennemi a changé des méthodes et tactiques. Il commence maintenant à s'infiltrer dans la ville pour poser des bombes artisanales. Lorsque nous avons reçu les messages d'alerte, nous avons directement convoqué une réunion de sécurité et nous avons pris un certain nombre de mesures que nous avons partagées avec les bourgmestres. Les bourgmestres, à leur tour, ils ont partagé avec les chefs de quartier. Voilà, nous avons pris des mesures depuis la première explosion, donc celui du 25 décembre, j'avais lancé une opération que nous disons en Swahili Chunguza Jirani, c'est-à-dire nous travaillons directement avec la population. Je demande à la même population de continuer dans cette opération-là, de voir qui est à côté de nous, qui vit à côté de nous, et qu'on puisse identifier, s'identifier. Tout le monde doit connaître qui est à côté de lui pour alerter les autorités que nous sommes, afin que nous puissions traquer et traduire en justice tous les assaillants.
Toujours au Nord Kivu, 10 leaders des groupes armés favorables à la reddition ont reçu hier lundi à Goma leurs attestations de démobilisation. C'était à l'issue d'une journée de sensibilisation et information sur le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Une trentaine de cadres de l'administration des territoires, les chefs coutumiers et délégués de la société civile y ont pris part. Cette cérémonie marque le lancement officiel des opérations de démobilisation et désarmement communautaire de groupes armés au Nord Kivu, indique le vice-gouverneur. À Kananga, la population bénéficiaire du courant électrique de la Société nationale d'électricité SNEL ne le voit plus depuis les débuts du mois de février en cours. Elle fait remarquer qu'après le passage du chef de l'État à Kananga, elle était desservie en permanence pendant le mois de janvier. En ces temps-là, la SNEL avait expliqué avoir acquis 3 nouveaux groupes électrogènes qui lui permettraient d'augmenter la production du courant et réduire le système de délestage. Depuis, plus rien. François Kadima revient sur cette situation.
La ville de Kananga vit sans électricité de la SNEL depuis le début de ce mois de février. Alors qu'il y a un mois, la population, du moins celle qui en bénéficie, avait constaté une électricité en permanence après le passage du chef de l'État dans la ville. Pour le moment, les ampoules ne s'allument pas, même pour quelques heures comme par le passé. La population s'inquiète.
La SNEL envoyait les courants régulièrement. C'est comme si le chef de l'État est parti avec les courants.
Le cadre des concertations de la société civile qui s'indigne de la situation indique avoir échangé avec les responsables locaux de la SNEL par rapport rapport à cette situation, Justin Tshibangu de la gouvernance économique au sein de cette structure.
Les moteurs avaient tourné 24 sur 24, bien que les chefs de l'État auraient promis que la subvention viendrait, mais jusqu'à son retour, aucun litre de mazout n'était arrivé donc à la SNEL, et que la SNEL Kananga a fait tourner les moteurs sur base de son carburant propre.
Lors de son passage à Kananga, le directeur général de la SNEL avait indiqué que la société a acquis trois nouveaux groupes pour desservir la population. Le courant qui était visible sur la ville provenait de ces machines qui étaient pendant une période de rodage d'un mois. Par rapport à la situation actuelle, contacté, le directeur provincial de la SNEL a expliqué à Radio Okapi qu'il n'y a pas de carburant pour alimenter les groupes thermiques qui attendent l'appui de Kinshasa. De Kananga, François Kadima, Radio Okapi.
Actualité internationale. Le dernier bilan du passage du cyclone Batsirai à Madagascar fait état de 21 morts et plus de 73 000 sinistrés. Le secours s'organise sur la côte est, la plus durement touchée, notamment en matière d'assainissement et d'accès à l'eau potable. Mais dans le centre de l'île, sur les hautes terres, là où personne ne s'attendait vraiment à un cyclone d'une telle intensité, les habitants se retrouvent seuls et démunis au milieu des dégâts. La ville d'Effianarantsoa pense encore ses plaies après que Batsirai a frappé à minuit samedi 5 février cette grosse ville située dans le centre du pays avec des vents moyens estimés à 160 km l'heure.
L'invité.
Nous devons prendre exemple des pays dont les fonds souverains ont aidé à diversifier l'économie. C'est l'avis d'Yvette Mwanza, experte dans les questions minières sur la manière dont l'argent versé dans le FOMIN, fonds minier congolais, devrait être investi pour être finalement rentable pour les générations futures et actuelles. Rappelons que le FOMIN doit recevoir annuellement 10% de la redevance minière. Selon les estimations de l'ONG Énergie, cela représenterait 30 à 105 millions de dollars américains. C'est donc avec cette interview que Radio Okapi boucle sa série de productions sur le FOMIN. Yvette Mwanza s'entretient avec Cynthia Bachizi.
Yvette Mwanza, bonjour.
Bonjour madame.
Il y a une petite guéguerre, si je peux le dire, entre les organisations des jeunes qui sont actifs dans le secteur minier et le gouvernement congolais. Ces jeunes-là pensent justement que ce fonds a été institué pour garantir l'après-mine et que, par exemple, l'argent versé dans ce fonds devrait financer des bourses d'études, de projets de jeunes entrepreneurs. Comment trancher ?
Bon, je voudrais pas vraiment trancher, mais je pense qu'on doit se référer à ceux qui ont fait de preuves dans ce domaine et surtout au FMI qui a dicter ce qu'on appelle les principes de Santiago. C'est vraiment un ensemble de bonnes pratiques qui aident les pays qui ont institué les fonds souverains à les gérer de manière durable. Et selon aussi les critères du FMI, le fonds souverain doit être destiné aux investissements à long terme. Il faut maintenant voir comment concilier les préoccupations des uns et des autres sans pour autant aller à l'encontre des critères du FMI. Maintenant, il y a plusieurs sortes de fonds. C'est à l'air d'essayer de se fixer quels sont les objectifs. Quand vous lisez dans les missions qui sont assignées à ces fonds, il y a le financement de la recherche géologique, il y a la prise de participation, il y a la diversification. Maintenant, si on reste dans cette logique-là, je pense que les jeunes ne vont pas se retrouver. Mais on ne demande pas aussi au gouvernement de faire la sourde oreille. Il faut qu'il voit dans quelle mesure il peut trouver une partie d'une quotité peut-être destinée aux bourses d'études, peut-être dans le domaine de mine, dans les domaines de renforcement des capacités, parce que nous sommes un pays minier, mais nous sommes aussi un pays pétrolier. On a besoin des ressources humaines qualifiées dans le domaine des géosciences pour que nous soyons à même de bien gérer ces ressources-là.
Vous dites que la RDC n'a pas inventé la roue, donc il faut prendre exemple des pays qui ont des fonds miniers. Vous citez ici le Qatar, le Koweït ou Dubaï,
la Norvège.
Concrètement, ces pays ont fait quoi ?
Bon, par exemple, pour le fonds norvégien aujourd'hui, il a pris des participations dans l'indice boursier CAC 40 et chaque fois que cet indice-là génère du bénéfice, ce sont ces dividendes-là qui aident ces pays-là. Aujourd'hui, le fonds norvégien, il est autour de 8 000 milliards de dollars. Vous voyez que c'est un exemple. S'il est bien géré, si les prises de participation, que ce soit en interne ou au niveau international, sont bien gérées, les pays génèrent suffisamment des revenus pour les réinvestir encore dans l'économie et même dans les infrastructures.
Et pour le Qatar ?
Le Qatar, aujourd'hui, ils ont pris le PSG, c'est la propriété du fonds qatari. Il y a aussi la chaîne hôtelière Accor, c'est une chaîne française, ils ont 10% de revenus. La Chine a pris des participations dans les banques européennes et même américaines au plus fort de la crise économique mondiale de 2008. Ça, c'est ce qu'on appelle la China Investment Corporation, c'est un fonds souverain de la Chine. Alors maintenant, si on s'inspire des pays, surtout du Golfe, qui, eux, ont institué des fonds sur base des excédents de liquidités du secteur du pétrole, ils ont réussi à diversifier l'économie et cela les a aidés à se positionner de manière utile au niveau du commerce mondial et les retombées se ressentent aujourd'hui. Tout le monde envie Dubaï, tout le monde veut aller au Qatar.
Alors Madame Moza, vous ne pensez pas que chaque milieu a ses propres réalités et qu'il faudrait peut-être trouver une solution adaptée au contexte congolo-congolais? Est-ce que si on transpose les réalités par exemple du Qatar, est-ce que ça marchera forcément ici chez nous?
On ne peut pas prétendre avoir le monopole de connaissances. Ceux qui sont plus expérimentés dans ces domaines peuvent nous aider. Mais nous, en interne aussi, on doit adapter la gestion de ce fonds à nos propres réalités. Mais on doit s'inspirer des success stories, sinon on risque de ne pas atteindre l'objectif pour lequel elle a été instituée. Et je pense aussi qu'au-delà du fonds minier, il fallait trouver d'autres sources pour alimenter ces fonds-là. Par exemple, la redevance pétrolière, il fallait trouver aussi une quotité. Il faut aussi penser aux actifs fonciers, aux actifs miniers, diversifier un peu les sources de financement de ce fonds pour qu'il soit vraiment à même de répondre aux besoins de la RDC.
Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter au nouveau DG qui vient de commencer fraîchement la gestion de ce fonds?
Bon, on lui souhaite toutes les bonnes chances. Nous espérons qu'il va gérer de manière responsable. C'est quelqu'un qui est déjà du secteur minier, donc il s'y connaît. Nous, les secteurs privés, ce que nous devons faire, c'est de nous acquitter de notre obligation fiscale. Donc chaque fois qu'il y a exportation, la quotité des 10% doit être versée. Mais cela n'empêche pas les Congolais de tous bords de contribuer en termes de réflexion pour donner des propositions au gouvernement de manière à ce que ce fonds puisse vraiment servir et aux générations présentes et aux générations futures.
Et je vous remercie.
Merci, madame.
Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.